des mille et une nuits, histoire de Sindbad le marin, première cassette, deuxième face. Quatrième voyage de Sindbad le marin. Les débuts de mon quatrième voyage, commencé dans un port de Perse, furent assez heureux et n'eurent rien de remarquable. Cependant, comme nous étions un jour en pleine mer, une tempête nous fit sombrer et nous jeta, cinq de mes compagnons et moi, dans une île où nous fûmes faits prisonniers par des anthropophages, c'est-à-dire des hommes mangeurs d'hommes. Ces misérables entreprirent de nous engraisser pour nous manger et ils dévorèrent en effet mes compagnons. Pour moi, la crainte de la mort dont j'étais incessamment frappé transformait comme en poison tous les aliments que je prenais. Je tombai dans une maladie qui fut une chance pour moi, car les anthropophages, ayant assommé et mangé mon compagnon, en demeurèrent là, et me voyant maigre, sec, décharné, malade, ils remirent ma mort à un autre temps. Je parvins enfin à m'enfuir et je marchai pendant 7 jours à travers l'île sans rencontrer âme qui vive. Le 8e jour, j'arrivai dans une fort belle ville où régnait un prince renommé pour sa sagesse. Il eut la patience d'écouter le récit de mes malheurs et m'admit au nombre de ses familiers. Comme je lui faisais ma cour très exactement, il me dit un jour: Sindbad, je t'aime, et je sais que tous mes sujets qui te connaissent t'aiment comme je t'aime. Je veux te marier afin que le mariage te fasse rester dans mon pays et que tu ne songes plus à ta patrie. Comme je n'osais pas résister à la volonté du prince, il me donna pour femme une dame de sa cour, noble, belle, sage et riche. Après les cérémonies des noces, je m'établis chez la dame, avec laquelle je vécus quelque temps dans une union parfaite. Néanmoins, je n'étais pas très content de mon état. Mon dessein était de m'échapper à la première occasion et de retourner à Bagdad. Ce qui me donnait surtout ce désir de m'enfuir était la connaissance d'une coutume du pays, coutume assurément fort barbare et qui me causait la plus vive épouvante. Si des deux époux, l'un vient à mourir, le mari vivant est enterré avec la femme morte et la femme vivante avec le mari mort. Tout le monde subit cette loi. Je tremblais au moindre malaise que je voyais à ma femme. Mais hélas, j'eus bientôt la frayeur tout entière. Elle tomba véritablement malade et mourut en peu de jours. Juger de ma douleur, être enterré tout vif ne me paraissait pas une mort moins déplorable que celle d'être dévoré par des anthropophages. Le roi, accompagné de toute sa cour, voulut honorer de sa présence la cérémonie et les personnes les plus considérables de la ville me firent l'honneur d'assister à mon enterrement et de me conduire à la montagne où je devais être enterré. Lorsque tout fut prêt pour la cérémonie, on posa le corps de ma femme dans un cercueil avec tous ses bijoux et ses plus magnifiques habits. On commença la marche. Je suivais immédiatement le cercueil de ma femme, les yeux baignés de larmes et déplorant mon malheureux destin. Quand on fut arrivé au bord du puits où l'on descendait les morts, on se hâta de descendre le corps de ma femme, et l'on m'y descendit un moment après, dans un autre cercueil découvert, avec un vase rempli d'eau et 7 pains. À mesure que j'approchais du fond, je découvrais, à la faveur du peu de lumière qui venait d'en haut, la disposition de ce souterrain. C'était une grotte fort vaste, toute remplie d'ossements et de cadavres. Lorsque je fus en bas, je sortis rapidement du cercueil, me jetai par terre, où je demeurai longtemps plongé dans les pleurs. Néanmoins, j'allai à tâtons prendre le pain et l'eau qui étaient dans mon cercueil, et j'en mangeai. Je vécus quelques jours de ces maigres provisions, mais enfin, n'en ayant plus, je me préparai à mourir. Je n'attendais plus que la mort lorsque j'entendis soulever la pierre. On descendait, un homme mort et sa femme vivante. Pendant qu'on descendait la femme, je m'approchai de l'endroit où le cercueil devait être posé. Et quand je m'aperçus que l'on refermait l'ouverture du puits, je donnai sur la tête de la malheureuse 2 ou 3 grands coups d'un gros os dont je m'étais saisi. Je l'assommai et j'eus les provisions pour quelques jours. Au bout de ce temps-là, on descendit encore une femme morte et un homme vivant. Je tuai l'homme de la même manière, et comme par bonheur pour moi, il y eut alors une espèce de mortalité dans la ville, je ne manquai pas de vivre en faisant toujours pareil. Un jour que je venais de tuer encore une femme, j'entendis souffler et marcher. J'avançai du côté d'où partait le bruit. J'entendis souffler plus fort à mon approche. Et il me parut entrevoir quelque chose qui prenait la fuite. Je suivis cette espèce d'ombre et je la poursuivis si longtemps et si loin que j'aperçus enfin une lumière. Je continuai de marcher vers cette lumière et à la fin je découvris qu'elle venait par une ouverture du rocher assez large pour y passer. Je m'arrêtai quelque temps pour me remettre de mon émotion, puis m'étant avancé jusqu'à l'ouverture, j'y passai et me trouvai sur les bords de la mer. J'examinai la montagne qui était derrière moi et remarquai qu'elle était située entre la ville et la mer, sans communication par aucun chemin, parce qu'elle était tellement escarpée que la nature ne l'avait pas rendue praticable. Je rentrai dans la grotte pour y chercher ma nourriture et pour ramasser à tâtons dans les cercueils tous les diamants, les rubis, les perles, les bracelets d'or et les riches étoffes que je trouvais sous ma main. Je portai tout cela sur le bord de la mer et j'en fis plusieurs ballots. Au bout de 2 ou 3 jours, j'aperçus un navire qui ne faisait que de sortir du port et qui vint passer près de l'endroit où j'étais. Je fis signe de la toile de mon turban et je criai de toute ma force pour me faire entendre. On m'entendit et l'on détacha la chaloupe, c'est-à-dire la barque, pour me venir prendre. À la demande que les matelots me firent par quel malheur je me trouvais en ce lieu, je répondis que je m'étais sauvé d'un naufrage avec les marchandises qu'ils voyaient. Heureusement pour moi, ces gens se contentèrent de ma réponse et m'emmenèrent avec mes ballots. Peu de temps après, j'arrivai heureusement à Bagdad avec des richesses infinies dont il est inutile de vous faire le détail. Pour rendre grâce à Dieu des faveurs qu'il m'avait faites, je fis de grandes aumônes, tant pour l'entretien de plusieurs mosquées, ce sont les églises de ce pays, que pour les pauvres, et je me donnai tout entier à mes parents et à mes amis, en me réjouissant et en mangeant de bons repas avec eux. 5e voyage de Sindbad le marin. Le premier endroit où nous abordâmes, au cours de mon 5e voyage, fut une île déserte, où nous trouvâmes l'œuf d'un oiseau géant, un oiseau roc, d'une grosseur pareille à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près d'éclore, dont le bec commençait à paraître. Mes compagnons, malgré mes conseils, cassèrent l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc et le firent rôtir. Ils avaient à peine achevé leur repas quand parurent en l'air deux gros nuages. Le capitaine s'écria que c'était le père et la mère du petit roc et il nous pressa tous de nous rembarquer au plus vite pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous suivîmes son conseil avec empressement et nous hissâmes les voiles sans perdre de temps. Cependant, les deux rocs approchèrent en poussant des cris effroyables. Ils redoublèrent ces cris lorsqu'ils eurent vu l'état où l'on avait mis l'œuf et leurs petits. Afin de se venger, ils reprirent leur vol du côté où ils étaient venus et disparurent quelque temps pendant que nous fîmes force de voile pour nous éloigner et éviter ce qui nous arriva néanmoins. Les deux rocs revinrent et nous remarquâmes qu'ils tenaient en leurs griffes chacun un morceau de rocher d'une grosseur énorme. Lorsqu'ils furent juste au-dessus de mon vaisseau, ils s'arrêtèrent et se tenant en l'air, ils laissèrent tomber leur roche si juste au milieu du vaisseau qu'elles le rompirent et le brisèrent en mille pièces. Les matelots et les passagers furent tous écrasés du coup ou noyés. En revenant au-dessus de l'eau, j'eus le bonheur d'attraper une épave, c'est-à-dire un morceau de bois du bateau, et finit, grâce à ce morceau de bois auquel je m'accrochais, par aborder à une île dont le rivage était fort escarpé. Je surmontai néanmoins ces difficultés et me sauvai. Je m'avançai dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Il y avait partout des arbres chargés de fruits mûrs et excellents, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisaient d'agréables détours. Je mangeai de ces fruits que je trouvais excellents, et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. Lorsque je fus un peu avant dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Je m'approchai de lui, je le saluai, et il me fit seulement une inclination de tête. Je lui demandai ce qu'il faisait là. Mais au lieu de me répondre, il me fit signe de le charger sur mes épaules et de le passer de l'autre côté du ruisseau, en me faisant comprendre que c'était pour aller cueillir des fruits. Je crus qu'il avait besoin que je lui rendisse service. C'est pourquoi, l'ayant chargé sur mon dos, je passai le ruisseau. « Descendez !» lui dis-je alors en me baissant pour faciliter sa descente. Mais au lieu de se laisser aller à terre, il passa légèrement autour de mon cou ses deux jambes en me serrant si fortement la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler. Je vis alors que je ne pouvais pas m'en débarrasser et me mis à marcher comme il semblait le désirer. Étant debout, il me fit aller sous des arbres. Il me forçait de m'arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour. Et quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller, et ensuite il me faisait lever et marcher en me pressant de ses pieds. Un jour, je trouvai en mon chemin plusieurs noix de coco sèches et vides qui étaient tombées d'un arbre qui en portait. J'en pris une assez grosse et après l'avoir bien nettoyée, j'écrasai dedans le jus de plusieurs grappes de raisin. Lorsque j'en eus rempli la noix de coco, je la posai dans un endroit où j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la noix et, la portant à ma bouche, je bus d'un excellent vin qui me donna de la vigueur. J'en fus même si réjoui que je me mis à chanter et à sauter en marchant. Le vieillard, qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit en moi, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentai la noix de coco, il la prit, et comme le liquide lui parut agréable, il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour le rendre ivre. Et bientôt, le vin lui montant à la tête, il commença à chanter à sa manière et à se trémousser sur mes épaules. Ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que, voyant qu'il ne me serrait plus, je le jetai par terre où il demeura sans mouvement. Alors je pris une très grosse pierre et lui en écrasai la tête. Je sentis une grande joie de m'être délivré pour jamais de ce maudit vieillard et je marchai vers la mer où je rencontrai des gens d'un navire qui venaient d'aborder pour prendre de l'eau douce. Ils furent extrêmement étonnés de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. « Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu'il n'ait pas étranglé. Il a rendu cette île tristement célèbre par le nombre de personnes qu'il y a tuées. Les matelots et les marchands qui y descendaient n'osaient s'y avancer qu'en bonne compagnie. C'est encore au cours de ce voyage que je connus la ruse qu'employaient certains voyageurs pour amasser des provisions de noix de coco. Un de mes nouveaux compagnons me conduisit avec lui dans une grande forêt d'arbres extrêmement hauts et fort droits et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y prendre pour monter jusqu'aux branches où étaient les fruits. Tous les arbres étaient des cocotiers. En entrant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de gros et de petits singes qui prirent la fuite devant nous dès qu'ils nous aperçurent et qui montèrent jusqu'en haut des arbres avec une agilité surprenante. Les marchands avec qui j'étais ramassèrent des pierres et les jetèrent de toute leur force en haut des arbres contre les singes. Je suivis leur exemple et je vis que les singes cueillaient les noix de coco avec ardeur et nous les jetaient avec des gestes qui marquaient leur colère. Nous ramassions les noix de coco et nous jetions de temps en temps des pierres pour irriter davantage les singes. Par cette ruse, nous remplissions nos sacs de ce fruit qu'il nous eût été impossible d'avoir autrement. J'eus ainsi en peu de temps une énorme provision de noix de coco qui représentait une somme considérable. Et ma fortune se trouva encore augmentée quand je rentrai à Bagdad sans autre aventure qui vaille la peine d'être racontée. Sixième voyage de Sindbad le marin. Le capitaine qui me prit à son bord pour mon sixième voyage avait l'intention de faire un long voyage. Il s'était muni d'un pilote fort habile qui n'empêcha pas cependant que nous fussions pris par un fort courant qui jeta notre navire au pied d'une montagne inaccessible où il échoua et se brisa, de manière pourtant qu'en sauvant nos vies, nous eûmes encore le temps de débarquer nos vivres et nos plus précieuses marchandises. La montagne au pied de laquelle nous étions faisait la côte d'une île fort longue et très vaste. Cette côte était toute couverte de débris de vaisseaux qui avaient fait naufrage. C'est aussi une chose presque incroyable que la quantité de marchandises et de richesses qui se présentaient à nos yeux de toutes parts. Au lieu que partout ailleurs, les rivières sortent de leur lit pour se jeter dans la mer, Tout au contraire, une grosse rivière d'eau douce s'éloigne de la mer et pénètre dans la côte au travers d'une grotte dont l'ouverture est extrêmement haute et large. Ce qu'il y a aussi de remarquable dans ce lieu, c'est que les pierres de la montagne sont de cristal, de rubis ou d'autres pierres précieuses. Nous demeurâmes sur le rivage comme des gens qui ont perdu l'esprit et nous attendions la mort de jour en jour. D'abord, nous avions partagé nos vivres également. Ainsi, chacun vécut plus ou moins longtemps que les autres, selon son tempérament et selon l'usage qu'il fit de ses provisions. Ceux qui moururent les premiers furent enterrés par les autres. Quant à moi, j'enterrai tous mes compagnons. Et il ne faut pas s'en étonner, car j'avais mieux économisé que les provisions qui m'étaient tombées en partage. Néanmoins, lorsque j'enterrai le dernier, il me restait si peu de vivres que je jugeais que je ne pourrais pas vivre longtemps. Dieu eut encore pitié de moi et m'inspira la pensée d'aller jusqu'à la rivière qui se perdait sous la voûte de la grotte. J'eus l'idée de m'y embarquer pour voir où elle m'emmènerait. Je fis donc un radeau avec de bonnes pièces de bois et de grosses cordes, car j'en avais à choisir. Je le chargeai de quelques ballots de rubis, d'émeraudes, de cristal de roche et d'étoffes précieuses. Je m'embarquai alors sur le radeau avec deux petites rames que je n'avais pas oublié de faire. Et me laissant aller au cours de la rivière, je m'abandonnai à la volonté de Dieu. Sitôt que je fus sous la voûte, je ne vis plus de lumière et le fil de l'eau m'entraîna sans que je pusse remarquer où il m'emportait. Je voguai quelques jours dans cette obscurité. Enfin, un doux sommeil vint me saisir. Je ne puis vous dire si je dormis longtemps, mais en me réveillant, je me vis avec surprise dans une vaste campagne, au bord d'une rivière, où mon radeau était attaché, au milieu d'un grand nombre de noirs. Je me levai dès que je les aperçus et les saluai. Un d'eux s'avança et m'expliqua comment il m'avait aperçu sortant sur mon radeau de la caverne par où apparaissait la rivière et comment il m'avait recueilli. Je l'ai prié de me donner quelque chose à manger. Lorsque j'eus apaisé ma faim, ils envoyèrent chercher un cheval que l'on amena peu de temps après. Ils me firent monter dessus et pendant qu'une partie marchait devant moi pour me montrer le chemin, les autres, qui étaient les plus forts, chargèrent sur leurs épaules le radeau tel qu'il était avec les ballots et commencèrent à me suivre. Nous marchâmes tous ensemble jusqu'à la ville de Serendib, car c'est dans cette île que je me trouvais. Les Noirs me présentèrent à leur roi et ce prince me reçut d'un air obligeant. Il me fit avancer et prendre place auprès de lui. Je lui racontai mes aventures et lui montrai les richesses que j'avais recueillies sur la côte. Remarquant qu'il considérait mes pierreries avec plaisir et qu'il en examinait les plus belles les unes après les autres, je me prosternai et pris la liberté de lui dire « Sire, ma personne n'est pas seulement au service de votre majesté. La charge du radeau est aussi à elle et je la supplie de la regarder comme lui appartenant. » Il me dit en souriant, « Sinbad, je me garderai bien d'en avoir la moindre envie, ni de vous ôter rien de ce que Dieu vous a donné. Loin de diminuer vos richesses, je prétends les augmenter, et je ne veux point que vous sortiez de mes états sans emporter avec vous des marques de ma générosité. » Quelques jours après, je pris la liberté de supplier le roi de me permettre de retourner en mon pays, ce qu'il m'accorda d'une manière très aimable et très honorable. Il me força de recevoir un riche présent qu'il fit tirer de son trésor. et lorsque j'allais lui faire mes adieux, il me chargea d'un autre présent bien plus considérable et en même temps d'une lettre pour Haroun al-Rachid, calife de Bagdad, commandeur des croyants, notre souverain seigneur. Voici ce que contenait cette lettre, écrite en lettres d'or sur un parchemin précieux. Le roi des Indes, devant qui marchent 1000 éléphants, qui demeure dans un palais dont le toit brille de l'éclat de 100 000 rubis, et qui possède en son trésor 20 000 couronnes enrichies de diamants, au calife Haroun al-Rachid. Quoique le présent que nous vous envoyons soit peu considérable, ne laissez pas néanmoins de le recevoir en frère et en ami, en considération de l'amitié que nous conservons pour vous dans notre cœur et d'où nous sommes bien aises de vous donner un témoignage. Nous vous demandons la même part dans votre cœur, attendu que nous croyons le mériter, étant d'un rang égal au vôtre. Nous vous conjurons en qualité de frère. Adieu. Le présent consistait, premièrement, en un vase d'un seul rubis, creusé et travaillé en coupe, d'un demi-pied de hauteur et d'un doigt d'épaisseur, rempli de perles très rondes et toutes du poids d'une demi-drachme. Secondement, en une peau de serpent qui avait des écailles grandes comme une pièce ordinaire de monnaie d'or, et dont la propriété était de préserver de maladie ceux qui couchaient dessus. Troisièmement, en 50 000 drachmes du bois d'aloès le plus exquis, avec 30 grains de camphre de la grosseur d'une pistache. Enfin, le tout était accompagné d'une esclave d'une beauté ravissante et dont les habillements étaient couverts de pierreries. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'aussitôt rentré à Bagdad, je m'acquittai de mon ambassade qui fut reçue avec beaucoup de considération par le calife Haroun al-Rachid, commandeur des croyants. Fin de la deuxième face de la première cassette de l'histoire de Sinbad le marin. Pour avoir la fin de cette histoire avec le septième voyage, tu vas prendre l'autre cassette sur laquelle tu trouveras également l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs.